Salut, c'est Quentin, bienvenue dans l'émission Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail. Il y en a qui bossent, chaque semaine, un homme, un lieu, des produits, du savoir-faire. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Hubert Eliès à Frégeroc, près de Foissac, une grotte bien connue de Foissac. Et aujourd'hui, on va parler de pigeons. Donc, bonjour Monsieur Eliès.
Bonjour Quentin.
Donc voilà, je vais vous laisser parler, à savoir les gens qui écoutent cette émission ont envie de comprendre un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Donc moi, je vous laisse nous expliquer.
D'abord, j'ai commencé donc l'élevage de pigeons en 1981. Je me suis installé par une reprise de bâtiments que j'ai acheté avec un peu de terrain. En fait, le terrain n'est pas cultivable, c'est surtout des bois ou des buissons ou un peu de prés, mais rien de cultivable. Mais il y avait des bâtiments qui étaient des anciennes porcheries, qui n'étaient plus tellement utilisables en tant que porcheries.
Donc, là, on voit les pigeons, c'était une porcherie avant, quoi.
C'était des bâtiments pour où ils faisaient naître les cochons.
D'accord.
Voilà. Donc c'était un bâtiment qui date de 1946 et l'autre bâtiment date des fins des années 60.
D'accord.
Voilà. Après, il y a d'autres petits bâtiments qui sont un tout petit peu plus récents, mais en fait, c'est des vieux bâtiments en général.
Et donc vous êtes d'ici, quoi, vous avez entendu
parler
de...
Je suis d'ici. J'ai fait des études, après un bac, j'ai fait des études à Toulouse d'ingénieur, à l'école supérieure d'agriculture de Purpan. Et puis ensuite, donc en 1980, je me suis installé ici en reprenant ces porcheries.
Dans le but de faire des pigeons.
Dans le but de faire des pigeons, j'avais étudié un peu le problème, quoi. Donc j'ai présenté un dossier qui a été accepté et donc j'ai pu reprendre ces bâtiments pour l'installation que j'ai transformé ensuite. Parce qu'il faut des installations assez spéciales pour produire du pigeon.
Et donc à l'époque, c'était répandu ça, de faire du pigeon ?
C'était des années où se sont développés beaucoup d'élevages de pigeons. À partir entre 1979 et 1985, il y a eu beaucoup d'installations en pigeons. Par la suite, il y en a beaucoup qui ont abandonné, notamment en Bretagne, parce que le marché n'était pas très extensible non plus. Il y avait une surproduction, surtout en été. Et donc, finalement, moi, j'étais le troisième à m'installer dans l'Aveyron, à plein temps. Suite à mon installation en 1981, un des deux autres exploitants qui faisaient du pigeon de chair, un des deux autres a arrêté. Et donc, on s'est retrouvés deux à plein temps, plus 7 ou 8 qui faisaient de petits élevages, qui avaient 100, 200 ou 300 couples.
Du coup, ça représente beaucoup de concurrence ou pas ?
La concurrence, elle existe au niveau national, mais localement, il n'y en a pas vraiment. Ouais. Mais le pigeonneau, il vient d'un peu partout. La région productrice en France, c'est surtout concentré autour d'Angers, dans l'ouest, parce qu'il y a de gros abattoirs. Ici, tous les éleveurs, la plupart, ont leur propre abattoir parce qu'il n'y a pas d'abattoir réellement qui vont prendre tous les pigeons. Okay. Donc la région productrice, c'est surtout autour d'Angers, Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres.
Voilà. Et l'Aveyron maintenant.
Et maintenant l'Aveyron, enfin, bon, je suis actuellement le seul à faire ça de l'Aveyron. Il y en a un autre en Gaec, dans le Tarn. On est peu nombreux ici.
Okay. Ouais. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il faut une organisation bien particulière pour faire du pigeon. Cette porcherie, concrètement, vous l'avez transformée. Quels sont les critères, les contraintes quoi, pour faire du pigeon ?
Bon, aujourd'hui, mes bâtiments ne sont pas tout à fait... ils sont valables pour faire du pigeon, mais enfin ce qui se fait actuellement, c'est totalement différent parce que c'est plus adapté pour le travail que ce que j'ai fait. Mais moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait en fonction de ce qui se faisait à l'époque, dans les années 80. Donc ça correspondait à ce qui se faisait à cette époque-là. Donc il faut des ouvertures, puisqu'il pour qu'ils pondent, il faut de la lumière, il faut du soleil. Et ensuite, c'est divisé en parquets d'élevage. Hein. Ça s'appelle des parquets d'élevage, où l'on va mettre, ça peut aller de 20 à 40 couples. Bon, moi, j'ai de 25 à 35 couples, suivant les dimensions des parquets d'élevage.
Ils ont l'air d'avoir de la place, quand même. Moi, c'est pas mon métier, mais ils ont l'air d'être quand même assez...
Les pigeons, c'est pas comme des poulets, ils sont pas au sol, ils ont les pondoirs qui sont verticaux. Ils sont verticaux et ils ont toute la place au sol, donc ils volent, et donc il faut c'est une surface développée, en fait il faut compter la surface des pondoirs plus la surface au sol. Donc en fin de compte, même si on voit beaucoup de pigeons plus ou moins dehors, dans les volières ils sont très à l'aise, ils sont pas, y a pas de, on compte environ pour 7 à 8 mètres carrés, 25 couples, quoi, à 30 couples maximum. Puisque le pigeon, ça fonctionne par couple.
Ouais. Et c'est le couple, c'est toujours le même ?
C'est les couples reproducteurs, donc si on veut faire du pigeonneau, il faut avoir les adultes et les reproducteurs, et ça marche uniquement par couple. Ça peut pas marcher.
Ils sont fidèles.
Voilà, une fois qu'ils sont en couple, ils sont fidèles. Voilà. Okay. Ça peut. Tant que tout va bien, par contre, s'il y a un mâle qui est malade ou une femelle, bon, après, il y a des désaccouplements qui se produisent. Mais tant que les pigeons sont en pleine forme, tout marche bien.
Ok.
Donc, il y a les parquets d'élevage, il y a des pondoirs, des nourrisseurs qui sont remplis de grains à volonté pour la nourriture, et de l'eau qui est toujours à volonté parce qu'ils ont besoin, comme le pigeon, c'est lui qui s'occupe de tout, en fin de compte, les adultes, c'est eux qui pondent, la femelle pond, puis ils couvrent les œufs, ils nourrissent, donc ils font tout, en fin de compte. Et donc ils ont besoin d'eau en permanence pour pouvoir nourrir les jeunes. Le pigeon est un nidicole, c'est-à-dire que les adultes élèvent leurs petits au nid pendant 4 semaines. Et à 4 semaines, le pigeonneau est prêt, il peut voler, il peut s'alimenter tout seul. Mais pendant ces 4 semaines-là, le pigeonneau est entièrement dépendant des parents. D'accord. Donc il faut des nids dans lesquels la femelle va pondre. Mâle et femelle couvent successivement. Le mâle dans la journée, la femelle c'est toute la nuit. Et tous les deux nourrissent les petits, d'accord, mâle et femelle.
Et donc au bout de 4 semaines, le pigeonneau, vous l'extrayez ?
Et à 4 semaines, le pigeonneau est prêt. C'est là où il est le plus gros, parce qu'il a été en fin de compte gavé par ses parents. Hein, et il a des... Quand le petit a une semaine, il a souvent le jabot qui est bien plus gros que son corps, parce qu'il est rempli de grains.
D'accord.
Et ils sont gavés littéralement par les parents. Et à 4 semaines, ils sont prêts. Donc, ils sont abattus à l'âge de 4 semaines jusqu'à l'âge de 6 semaines environ. D'accord. Parce que le problème, après, à partir de 6 semaines, c'est qu'ils vont refaire la première mue. Il y a des repousses de plumes, ça devient difficile à plumer. Puis le pigeonneau... il se met à voler, la chair devient un peu moins tendre et il change d'aspect. À partir de 2 mois, il aura un aspect plutôt d'adulte que de jeune.
D'accord.
Et il se fait les muscles, donc la période d'abattage, c'est de 4 à 6 semaines. À la sortie du nid, à 28 jours, il est entièrement emplumé.
Okay.
Il s'est volé, et il va falloir qu'il apprenne par contre à manger. Alors, quand il sort du nid, évidemment, il va commencer à perdre un peu de poids si les parents ne le nourrissent pas au sol.
Okay.
Mais il faut qu'il apprenne très vite à se nourrir lui-même.
Okay. Du coup, vous faites que du pigeonneau, quoi ?
Non, moi, je fais que du pigeonneau parce que ça demande beaucoup de travail. Bon, en plus, moi, je fais tout puisque je fais l'élevage, puis je fais l'abattage, la commercialisation en direct.
Et la transformation.
Et toute la transformation et tout.
Ça fait du boulot. L'émission, c'est il y en a qui bossent, on est tombé sur un client. Là. C'est clair.
Oui, voilà, mais ça demande... j'abats deux fois par semaine, lundi et le mercredi en général. Un peu plus à Noël parce qu'il y a une très grosse demande. Et puis je livre donc le mardi matin et le jeudi matin tous mes clients dans le secteur. Après, j'expédie aussi, soit directement à des particuliers, surtout en ce moment,
oui.
Un peu dans toute la France, dans la Somme, dans le Nord, dans la Sarthe, dans les Vosges, à Paris.
Jusqu'à Paris ?
À Nice, oui. Aujourd'hui, j'en ai expédié à Paris. La semaine prochaine, j'en expédie à Nice ou... etc.
Bon, mais vous êtes connu de par la qualité ou comment, enfin...
Ben, c'est-à-dire que j'ai un petit site internet et donc quand les gens cherchent du pigeonneau, ils me retrouvent sur Internet, quoi. Et donc,
c'est vrai que vous êtes sur Internet. Vous avez des très belles photos de l'Aveyron sur Facebook. Monsieur Elias, il aime beaucoup les paysages.
J'adore les photos aussi. Donc j'aime bien les paysages, tout ça.
Parce que là, on est dans un endroit quand même, pour décrire un peu, parce que c'est la radio, du coup on ne peut pas l'expliquer. C'est vrai que c'est quand même très beau. Bon, en plus, là, il fait super beau. Même si on est en hiver, il fait bon. Et il y a beaucoup de... Enfin, c'est dégagé, quoi. On voit beaucoup de champs, c'est dégagé. Les pigeons, moi, je pensais que ça serait beaucoup plus entassé que ça. Ils ont quand même de la... Comme l'expliquait Monsieur Elias, c'est quand même... Ils ont de l'espace un peu pour voler, au sol, pour marcher. Enfin, c'est vraiment c'est en trois dimensions que c'est réfléchi. C'est une volière, ouais.
Il y a une volière extérieure, hein.
Et une volière, de par là-bas, il y a une volière.
Vers ici.
Vers ici, ouais, c'est ça.
Cette volière.
Ouais, ils donnent sur l'extérieur, donc ils ont vraiment accès au soleil. Donc ces pigeons sont très très beaux, hein, ils sont blancs. Enfin, il y a plusieurs couleurs d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer les couleurs? Est-ce qu'il y a plusieurs races ou...
Les pigeons ont différentes couleurs parce qu'en fin de compte, on fait beaucoup de croisements. C'est surtout à base de blanc ou de pigeons rouges. On garde peu de bleu ou de noir parce que la couleur du plumage influence la couleur de la peau. Et pour la commercialisation dans les magasins, il vaut mieux avoir une peau claire ou un peu jaune, mais pas une peau noire ou bleue. Donc on utilise surtout des pigeons blancs ou à base de blanc. Ou des pigeons qu'on appelle pie, qui ont deux couleurs.
Comme les
voilà.
Chevaux.
Voilà. Ouais. Et on fait des croisements. En fait, on utilise peu de races pures, hein, parce que les races pures ont toujours des inconvénients. Soit elles sont très tardives, soit elles sont très bien conformées, mais elles pondent pas assez. Donc on fait des croisements entre plusieurs races. Donc moi, j'ai des souches à moi, mais aussi j'en utilise. J'en ai acheté d'un sélectionneur qui se trouve à côté de Cholet.
D'accord. Et quand vous dites des souches à vous, c'est-à-dire des pigeons que vous avez, des races depuis 80?
Ce sont des races que j'ai travaillées depuis très longtemps, que j'ai commencé avec des pigeons autosexables et du King Blanc. Et ensuite, j'ai racheté du pigeon Hubble. Et moi, j'ai travaillé des races à partir des croisements à partir du Hubble et du King Blanc. Okay. Et ensuite, et du King Argenté. Et maintenant, donc j'ai ces souches-là que j'ai améliorées parce qu'on nous demande des pigeons de plus en plus gros. Donc,
ouais. Ça, c'est les cuisiniers, ça.
Voilà, il faut qu'ils aient beaucoup de chair et qu'ils soient bien en chair et bien gros. Donc on est obligé de sélectionner des pigeons qui sont de plus en plus gros. Mais enfin, il y a une limite parce que plus les pigeons sont gros, moins ils pondent. Enfin, la femelle, si elle est trop grosse, elle pondra beaucoup moins. Puis en plus, ils ont tendance à casser les œufs s'ils sont trop gros. Donc on est un peu en limite On ne va pas faire des dindes non plus.
C'est clair. Ils sont très beaux en tout cas. Hein.
Donc en pigeon adulte, c'est autour de 700 grammes. Et le pigeonneau vif à 4 semaines, il va peser dans les 600-650 grammes.
Et pour vous, un pigeonneau de qualité, c'est ça, c'est aux alentours de 600 grammes.
Voilà, un pigeon vivant, un beau pigeon, c'est 600 grammes, oui. Voilà. Une fois plumé, vidé, il fait dans les 500 grammes à 550. Là, c'est bon. On nous demande. J'en ai des clients. Des fois, ils veulent des pigeons qui soient plumés vidés, qui fassent 600 grammes, 650. Même on m'a demandé jusqu'à 700, mais j'ai dit non. Moi, ce poids-là, c'est pas possible, quoi.
D'accord. Il y en a qui le font.
Non, pas beaucoup, non. Ah ouais. Non, parce que, comme je dis, plus le pigeon est gros, moins il va produire, donc c'est pas très intéressant, quoi. Ouais. Okay. Il va casser des œufs, tout ça. Étant donné que c'est lui qui va incuber ses propres œufs. Et s'il est trop lourd, l'œuf de pigeon est très très fragile. Hein. La moindre fêlure, l'œuf il va pas éclore. Hein.
Okay.
Donc il y a des pertes à cause de ça. Et la femelle qui est trop grosse en hiver, elle va avoir tendance à être un peu ne pas trop pondre. Hein. Les King Blanc à l'origine que j'avais, c'était des pigeons qui étaient extrêmement productifs, mais ils étaient trop petits. Mais ils étaient extrêmement productifs.
D'accord.
Et en fait, c'est ça, c'est que quand on descend en poids, on arrive à avoir des pigeons très très productifs.
En termes d'œufs, vous voulez dire?
Voilà, en nombre d'œufs. En fait, la femelle pond que deux œufs à chaque fois, à un peu moins de deux jours d'intervalle. Et sur une année, ça fait 10 couvées, quoi. J'ai eu des femelles qui faisaient 12 couvées, mais c'est extrêmement rare. Hein. Et puis, c'est même pas souhaitable parce que. Normalement, il faut que la femelle va répondre lorsque les pigeonneaux dans le nid ont une quinzaine de jours. La femelle, elle répond.
Déjà.
Donc, oui, déjà.
D'accord.
Donc, les pontes se font en gros tous les 35 jours. Et il vaut mieux parce que si on descend à 30 jours, pendant que le mâle et fait la chasse au nid, parce que le mâle il va chercher à ramener la femelle au nid pour qu'elle ponde, il délaisse un peu les jeunes. Et si les jeunes sont trop jeunes, soit ils vont avoir froid et peut-être mourir de froid quand il fait froid en hiver. Donc il vaut mieux qu'ils commencent à avoir des plumes quand le mâle fait la chasse au nid pour que la femelle puisse répondre. Donc en général, quand les jours sont longs, c'est tous les 35 jours. Par contre, dès qu'ils font la mue en automne, ils ne peuvent pas pondre et faire la mue et lever des jeunes. Donc les jours entre deux pontes vont s'allonger.
Okay.
Et on va, au lieu de pondre tous les 35 jours, ça va être tous les 45 jours.
Okay.
Alors si on veut avoir une ponte régulière dans toute l'année, il faut rajouter de la lumière la nuit pour avoir une durée de jour d'environ 14 heures. On va bloquer un peu la mue.
Est-ce que, je questionne toujours le rapport à l'animal, est-ce qu'il y a des comportements comme ça, voilà, est-ce qu'il y a un comportement particulier chez cet animal, enfin, déjà le rapport de couple, déjà je trouve assez intéressant, que vous avez pu noter ou...
Ah ben, ce sont des couples qui sont fidèles, c'est le mâle qui dirige, lui il va...
Déjà ça c'est bizarre.
Oui. Il va choisir son nid et sa femelle. Et donc, une fois qu'il a choisi sa femelle, il va chercher un nid. Et ce nid, ils vont le garder tout le temps. Par contre, donc dans un parquet d'élevage, il faut qu'il y ait exactement le même nombre de nids que de couples. Parce que les mâles, ils ont tendance à vouloir récupérer les nids des autres.
D'accord.
Alors, s'il y a un nid qui est vide... Il va essayer de le récupérer. Pendant le temps qu'il va essayer de le récupérer, il va pas s'occuper, mais il va s'occuper moins bien des petits, etc.
D'accord. Comme les gens, en fait.
Voilà. Donc, ils ont un comportement. Ils sont fidèles, mais il faut leur mettre des règles quand même pour qu'ils restent, qu'ils ne prennent pas plusieurs nids. Voilà.
Okay.
Voilà. Sinon, bon. Ils se désaccouplent uniquement s'il y a des problèmes de maladie. S'il y en a un des deux qui est malade...
L'autre le sang et...
Voilà.
D'accord.
En fait, la femelle, elle pond. La ponte, la femelle vient aussi bien du mâle que de la femelle. Un mâle qui n'est pas actif, il ne va pas pousser la femelle à pondre. Et la femelle pondra moins. Et un mâle qui est très actif, il y aura une meilleure production.
OK.
Parce qu'il poussera la femelle à pondre.
D'accord.
Des fois, des femelles ne pondent pas, mais ça vient uniquement du mâle. Qui est pas assez actif et qui est amorphe et bon mais c'est
comme les jeunes c'est pas
voilà vrai. Voilà et donc il vaut mieux avoir des mâles qui soient bien portants, bien vifs, mais bon pas trop non plus parce que s'ils sont bagarreurs ils cassent des œufs, ils massacrent des petits dans
d'accord.
les nids des autres, etc.
Il y a vraiment des caractères en fonction des
oui alors il faut éliminer donc ceux qui sont trop bagarreurs, qui vont casser des œufs partout. Alors comme ils vivent en communauté, il y a des pertes qui sont dues à ça, parce que y a un mâle ou une femelle en montant dans le nid, se trompe de nid. Comme il y a quand même 30 ou 40 nids ensemble, des fois ça arrive.
Ouais.
Ou des fois c'est volontaire, le mâle il veut récupérer un nid, il rentre dans le nid, ils vont se bagarrer entre mâles, ouais. Et puis s'il y a des œufs dedans, ils sont cassés. S'il y a des petits qui sont naissants, qui font 15 ou 18 grammes, c'est pareil. Et ils sont massacrés, quoi.
Donc, c'est le western.
C'est un peu, oui, des fois. Donc c'est pour ça que la mise en place des reproducteurs, on met par exemple 25 mâles, 25 femelles, ou 30 mâles, 30 femelles. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait, faut qu'il y ait exactement le même nombre. Et pendant l'installation, on va demander à peu près 3 mois, le temps que les mâles ils prennent les nids, qu'ils s'accouplent entre mâles et femelles, et que les couples soient stables. Et après, pendant ce temps, au bout d'un mois et demi, deux mois, il faut faire un peu le tri. Au bout de 3 mois, là, on voit un peu comment sont formés les couples.
Okay.
C'est pour cela qu'ils sont numérotés tous.
Ouais, on voit bien que c'est bien.
Il y a des mâles qui ont des lettres, les femelles des numéros.
Des numéros, d'accord.
Pour bien les distinguer. Comme okay. ça permet de noter dans quel nid ils sont et comment ils sont accouplés.
D'accord, très bien.
Voilà.
Rapidement, vu qu'on arrive un peu au bout de notre entrevue, comment on peut trouver vos produits, comment on peut vous trouver, et pour venir, j'ai expliqué qu'on était près de Foissac, mais voilà, pour donner des informations un peu.
Ben moi, je vends un peu sur place quand je suis là, mais après, je fais pas de marché parce que j'ai pas le temps. Mais après, je vends à des intermédiaires qui se trouvent plutôt sur Rodez ou autour de Rodez. Mais après, à des magasins. Bon, c'est vrai que je travaille beaucoup sur Rodez, mais j'en ai dans le coin, j'en ai à Intermarché à Cap-de-Nac. Après, j'en ai à Decazeville, j'en ai dans les magasins à Decazeville, après à Saint-Cyprien, après, bon, bien sûr, à Rodez, parce que c'est mon secteur, ouais. Un peu. Sur Villefranche, non, j'ai pas de magasin qui m'en vendent, mais bon.
Ça, c'est pas bien, hein.
C'est pas loin.
Avis, oui. ACFM, là.
C'est pas loin de... J'ai des gens de Villefranche qui viennent m'en chercher, ah, directement, ouais. qui me connaissent, ou des fois, j'en livre. Parce que comme je suis pas loin, moi, je peux livrer directement sur Villeneuve, Villefranche, oui. C'est pas un problème.
Je vais remettre à la carte, en tout cas, c'est sûr, ça m'a donné envie.
Sinon, après, je vends à des restaurateurs, il y a différents restaurateurs, Fage-Galtier, Belcastel, voilà. Ben Quentin.
Ouais, mais Nicole Fage-Galtier, j'ai souvent vu les pigeons de la Coulonnière à la carte, elle fait très très bien.
J'ai eu travaillé aussi pendant longtemps avec Michel Brass, mais j'ai eu un problème sanitaire, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai pas pu le fournir. Bon, c'est un collègue à moi qui a pris la succession.
Ah, ça, c'est comme ça.
C'est comme ça, hein, ouais. C'est la vie, des fois ça marche pas. J'ai travaillé, bon, à l'époque où j'avais beaucoup de restaurants, j'en avais à Salcuran, à Pont-Salard, beaucoup dans le Nord-Aveyron, Espalion, Decazeville, un peu partout.
C'est un produit qui était quand même bien reconnu, quoi. Oui, votre produit,
oui.
Je veux dire.
Oui. Et puis là, bon, maintenant, c'est vrai que j'ai des demandes maintenant d'un peu partout en France. Okay. Vu que, on m'en a demandé en Suisse, mais bon, c'était pas des quantités importantes. Alors bon,
ça valait pas le coup.
Ouais. Ça valait pas trop le coup. On m'a demandé aussi en Angleterre, en Grande-Bretagne.
C'est international.
Oui. Bon, ben pour l'instant, bon, je vends plutôt en France parce que bon, c'est plus facile, quoi.
Puis votre produit parle de lui-même. Enfin, pour l'avoir goûté et cuisiné et préparé, c'est un très très bon produit. Donc c'était les pigeonneaux de la Coulonnière avec Monsieur Hubert Eliès, éleveur près de Foissac à Frégeroc. C'est bien ça.
Mais oui, c'est ça, tout à fait.
Bon, mais je vous laisse parce que vous avez du travail, et moi aussi, et puis il y en a qui bossent.
Voilà, ben merci bien.
Avec plaisir.
Au revoir.
Chaque semaine, un homme, un lieu, des produits et du savoir-faire. Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail.